Deuxième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de la santé publique. Ce matin, notre documentaire nous emmène en Dordogne, à Clairvivre, cette cité idéale pour tuberculeux et blessés du poumon de la Grande Guerre. Après avoir évoqué hier avec Joël Coste l'histoire de la consultation médicale à l'époque moderne et avant demain de vous parler du rapport de la santé publique à la colonisation, nous partons ce matin pour le Périgord où fut créée dans les années 30 au cœur d'un village de Dordogne une cité idéale et moderne, eau courante et chauffage, pour accueillir les blessés du poumon de la Première Guerre mondiale et les tuberculeux. Un projet qui a divisé les habitants et les habitantes du village voisin de Salagnac et divise encore, si l'on en croit parfois, les débats entre certains et certaines d'entre eux, comme l'ont perçu avec leur micro Sarah Masson, Jean-Pierre Janvier et Anne Fleury pour ce documentaire. Documentaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin, avec les témoignages de Jacqueline Desthomas, de Christian Boisson, de Ginette Giraud, de Germaine Laurent, de Madeleine Porchat, de Mévena Mahé, de Robert Talbot et de Jean-Louis Bardet, ainsi que de l'architecte et historien d'architecture Jean-Louis Cohen.
Moi, je suis tout à fait contre. Moi, je suis tout à fait contre. Je me dis qu'il y avait des espaces à conquérir ailleurs. Le plateau du Larzac, par ailleurs, qui n'avait pas de bois.
Avant de s'installer à Clairvivre, ils ont prospecté sur Cubjac,
oui, on les a pas voulu.
Qui a refusé. Tout le monde avait peur de la tuberculose.
Oh.
Ah ben, oh. La preuve, c'est qu'il y a eu des suites après. Bon.
Oh, moi, je n'ai jamais entendu parler de peur.
Rappelle-toi quand on a dit que les vaches de Bois-Sierra avaient toute la tuberculose.
Mais c'est vrai qu'elles l'avaient.
Eh bien, peut-être, mais la panique que ça a fait dans le village.
Vous, pourquoi vous étiez contre ?
Parce qu'on a abattu une forêt qui méritait de survivre. Bien plus que ces pavillons-là, c'est horrible.
Qu'est-ce qui est horrible ?
Les pavillons, c'est mort. Peut-être que s'ils avaient un double toit comme ce du haut-là, je les aurais mieux acceptés. Mais comme ça, non.
C'était l'aspect esthétique.
Tout à fait. Et puis, les gens qui sont arrivés n'avaient pas du tout la même mentalité que les ouvriers. Je vais vous dire, je ne suis pas la seule à avoir été hostile à cette implantation-là. Au moment de l'inauguration, ni le préfet, ni le conseil général n'y ont été représentés. Ça ressemblait à un kolkhoz, je ne sais pas, c'était des fourriéristes, ces gens-là, qui ont construit Clairvivre.
Au bonheur des Clairvivants, par Sarah Masson et Anne Fleury.
Je ne comprends pas qu'on ait pu partir de chez soi.
Partir de chez soi, ben, quelle maison avaient-ils ces gars ? Des gars qui étaient des ouvriers, c'était quel milieu ?
Hein ? Mais quel que soit le milieu.
Mais quel que soit, tu me fais rire. Tu es malade, tu as deux petites pièces, tu as tes enfants qui vont coucher dans la même pièce que toi, etc. Donc ils étaient contents de trouver un
Alors voilà, vous aurez deux opinions différentes.
Mais non, mais c'est que je persiste et je trouve que j'ai raison en plus. Je trouvais admirable l'intérieur de ces pavillons. C'était beau d'avoir une salle de bain, ces solariums, machin de pavillon, où il y avait le soleil pour des gens qui arrivaient de... C'était beau, nous qui avions nos petites... Mais, ah ben peut-être, mais bon, je te donne mon opinion. Hein. N'oublie pas qu'il y a...
Enfin, je sais ce qu'est la tuberculose.
En plein Périgord, au milieu des forêts salubres, aux clairières ensoleillées, a surgi d'un élan vers la vie, créé par les malades pour les malades, une ville de clarté, de santé, de travail et de gaieté, c'est Clairvivre. Les blessés du poumon vivent là une existence saine qui met leur famille à l'abri de la contagion. Ils retrouvent une activité professionnelle et sociale, ils assurent l'avenir et la santé de leurs enfants qui seront recueillis par leurs camarades s'ils deviennent orphelins.
On est à peu près au centre d'un triangle qui serait formé entre Brive-la-Gaillarde, Périgueux et Limoges. On est environ à une cinquantaine de kilomètres de chaque ville. On est sur un site qui est en hauteur, bien ensoleillé, puisque bien entendu, à l'époque, on pense que le grand air et le soleil sont des éléments importants à la guérison des malades. On est aussi en lisière de forêt, ce qui assure à la fois le calme et aussi une barrière sanitaire.
Centre d'attraction et de rayonnement, triomphe des forces de vie contre les forces de mort, symbole de l'union qui devrait grouper tous les hommes et rapprocher tous les peuples dans la lutte commune contre la maladie, Clairvivre est une œuvre de paix et de fraternité.
Au nord-est de la Dordogne, sur un coteau ensoleillé, la cité de Clairvivre, inaugurée en 1933, accueille les gazés de la Grande Guerre et les tuberculeux. Sur le modèle de la cité idéale, on y construit un hôtel sanatorium et tout autour, quelques 200 pavillons de couleur en béton armé où les malades sont accueillis avec leurs familles. Véritable laboratoire de la condition humaine, selon son fondateur, Albert Delsuc, Clairvivre est pensée comme une ville autonome. Eau courante, chauffage central, électricité, mais aussi cinéma, théâtre, hôtel-restaurant. Tout est fait pour le bonheur des Clairvivants. Conçu à l'origine pour 5000 habitants, Clairvivre n'en compte que 500 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1938, la cité reçoit des réfugiés républicains espagnols. Pendant la guerre, elle abrite l'hôpital civil de Strasbourg, ainsi que des résistants et des réfractaires au STO. Devenue établissement public dans les années 80, la cité a conservé sa dimension sociale et thérapeutique. Elle accueille désormais un centre d'aide par le travail et de rééducation professionnelle. Christian Boisson, général à la retraite, s'est intéressé à la genèse du projet.
Le projet de Clairvivre, il est né d'un besoin. Vous savez que pendant la guerre de 1914-1918, on a utilisé les gaz du côté d'Ypres en 1915, mais ce n'était pas encore l'hypérite qui a été utilisé en 1917. Et à la fin de la guerre, il y avait 8000 Français qui étaient morts parce qu'ils avaient été gazés, mais il y en avait 190 000 qui étaient blessés du poumon. Alors l'hypérite, pour en revenir à cette vacherie, c'est un gaz vésicant qui brûlait à la fois la peau, mais aussi l'intérieur des poumons. Donc, à ces époques, en 1918, il y a eu la grippe espagnole, mais il y a aussi un fléau, c'était la tuberculose. Et systématiquement, tous les blessés du poumon contractaient la tuberculose. Donc, il y avait un besoin pour les soins. En France, la tuberculose, c'était la peur. Il y avait une crainte de la propagation de la maladie. Les médecins confinaient les malades dans des chambres. Alors que les Anglais, eux, avaient une autre conception. Ils mettaient dans ce village, ils leur accueillaient dans ce village, à Papworth, du côté de Cambridge, le malade et sa famille. Et c'est le professeur Bernard qui a vu comment ça fonctionnait et qui a dit pourquoi on ne le ferait pas en France. C'est la raison pour laquelle il s'est retourné vers la Fédération nationale des blessés du poumon, avec Albert Delsuc, et qu'est né ce projet. Trois hommes ont travaillé. Albert Delsuc, qui était le grand coordonnateur. Le docteur Hazeman, qui était dans toute la partie médecine, prophylaxie, politique médicale, politique de santé. Et Forestier, qui était l'architecte de Clairvivre.
Robert Talbot, vous êtes président de la FNBPC. Qu'est-ce que ça veut dire déjà le sigle ?
Fédération nationale des blessés du poumon qui s'occupe des pensionnés militaires de guerre et hors guerre.
Elle a été créée en quelle année ?
1921, le 15 février à Compiègne-sur-Rhône. Il faut vous dire qu'à l'époque, si vous voulez, les tuberculeux, c'était des pestiférés. C'était ce qu'on appelait les tubards. Alors, ils étaient mis à l'écart de tout. Parce qu'au Sana, les malades étaient isolés complètement de leur famille. Souvent, de fois, ils étaient dans des Sana à l'autre de la France et on voyait pas ils ne voyaient jamais leur famille, donc ils n'étaient pas dans des conditions de pouvoir avoir une guérison rapide et parfaite. Donc avec la construction de Clairvivre, on a essayé d'obtenir ce but, c'est-à-dire que le malade se soigne entouré de sa famille. Il y avait l'école pour les enfants. Et,
voilà. Le problème de ces soldats de 14-18 touchés au point de vue pulmonaire, c'est que leur maladie, elle ne se voit pas. Et au départ, on ne va pas la reconnaître. Donc, ils touchent des pensions dérisoires et ils vont s'insurger contre les pensions à 100% qui sont accordées aux gueules cassées. Il y a une espèce de paupérisation de toute cette classe et cette classe, elle a quand même sacrifié sa jeunesse sur les champs de bataille. Alors, Albert Delsuc faisait partie de ces gens-là. Il a été gazé. Il va se battre pour obtenir des pensions à 100%. Il va y arriver, je crois, en 1923.
Les gens qui se soignaient bénéficiaient de leur pension à 100%, plus de l'indemnité de soins. Ça permettait à ces gens de se soigner, de vivre sans être salariés à Clairvivre. Donc, dès 1929, ils ont pris la décision au congrès de Reims Et de là est partie après la construction de Clairvive, 29, 31. Vous voyez, ça a été assez vite pour la réalisation.
Cette grande allée, Léo Gerville-Réache, qui était un des journalistes qui écrivait dans les colonnes du journal Vivre, donc l'organe officiel de la Fédération des blessés du poumon, l'appelait la voie triomphale de la santé. C'est un peu pompeux, mais bon.
Jacqueline Desthomas, vous êtes habitante de la région, vous êtes auteure d'un ouvrage sur Clairvivre qui s'appelle Clairvivre de l'utopie à la réalité. Comment à l'origine fonctionnait le sanatorium de Clairvivre ?
Alors c'était l'hôpital, hein, l'hôpital où étaient traités les cas les plus graves. Il y avait même une entrée particulière pour les malades les plus contagieux. Vous savez que Clairvivre a été qualifié de grande tuberculoserie, hein, ce qui était épouvantable.
Par les gens de...
Par les gens du coin, les politiques même. Il y a eu une bagarre absolument terrible au niveau de sa création. Bon, cette maladie faisait terriblement peur. On n'avait pas d'armes médicales efficaces pour lutter contre elle et elle était particulièrement contagieuse. Alors, cet hôpital était hyper moderne. Hein, quand il a été conçu, il était très moderne, radiologie. Hein. Le balbutiement de la radio est arrivé grâce aux petites curies, hein, pendant la Grande Guerre. Donc là, on a voulu se doter d'un matériel très performant, ne serait-ce que pour prouver une chose, parce que les créateurs en avaient bien besoin, c'est qu'on aurait la maîtrise sur cette fichue maladie.
On passe par là ou par là ?
On va prendre l'entrée normale.
Oui.
Est-ce que je peux demander, docteur, de m'expliquer ce qu'on est en train de faire au...
Voilà. Au alors le sujet se place dans l'appareil, on baisse la chambre noire sur laquelle il va appuyer son menton. Le manipulateur mesure l'épaisseur de son thorax, car évidemment, le temps de pause sera différent. Voilà, ce qui est fait. Alors, je crois que vous n'avez plus qu'à faire passer le courant.
Ne bougez plus. Alors, c'est la pause.
C'est votre poitrine.
1945, les débuts du dépistage à Montreuil.
Partez, reprenez votre fiche. Le sujet va s'habiller. Vraiment, quand nous disions tout à l'heure 5 minutes, je crois
ça
que nous exagérions.
En effet, oui.
Une
ça
minute,
fait 30 secondes. Secondes.
C'est ça. Mettons
le temps de se déshabiller, passer ici une minute
c'est ça.
Et de se rhabiller.
Ça. C'est ça. Le déshabillage et le rhabillage est beaucoup plus long au fond que la prise de la radiophotographie.
C'est le carnet d'adresse, en fait, d'Albert Delsuc qui a permis la création de Clairvivre et toutes les relations qu'il a pu avoir avec des gens influents. Alors le premier, c'est le ministre des Pensions. Ensuite, le ministre de la Guerre, André Maginot, le fameux créateur de la ligne, le docteur Haseman, Robert Haseman. Alors Robert Haseman, c'est un médecin hygiéniste, connu pour ses idées communistes. Ce qui fait que le projet sera combattu par toute l'aile droite de l'Assemblée nationale à cause de sa présence. Alors il va s'entourer de tous ces gens-là et il va réussir à constituer une véritable force. En 1925, il fait un voyage à Berck où sont soignés beaucoup de tuberculeux. C'était surtout la tuberculose osseuse qu'on soignait à Berck. Il y voit un état déplorable d'hygiène, des repas insignifiants, alors que dans cette maladie, on préconise une bonne alimentation. Et Delsuc va les constater des visus, les avantages offerts par, on va dire, le modèle anglais. Il est emballé pour une raison toute simple, c'est que les malades vivent dans leur milieu familial. Il y a une prévention énorme qui est faite aux enfants. Il ne faut pas oublier que dans l'hôpital où vivaient des malades, la maternité se situe au troisième étage.
Dans l'hôpital de Clairvivre.
Dans l'hôpital de Clairvivre.
Jean-Louis Cohen, vous êtes historien de l'architecture et des villes. Alors en quoi Clairvivre est un projet architectural inédit ?
Clairvivre est un des multiples projets
des architectes modernes pour répondre à l'urgence sanitaire que représente la tuberculose. Je partirai du nord et du sanatorium de Paimio d'Alvar Aalto, qui est construit à la fin des années 20, magnifique bâtiment, jusqu'aux colonies héliothérapeutiques des architectes rationalistes italiens, construites dans les années 30. Donc il y a une production considérable de bâtiments de ce genre. Clairvivre est une opération intéressante et exceptionnelle parce qu'elle associe les deux grands types d'édifices utilisés pour combattre les effets de la tuberculose, qui sont le grand bâtiment, le sanatorium, le grand bateau et les systèmes pavillonnaires. Donc c'est la rencontre des deux dispositifs qui se développent en parallèle dans l'Europe depuis le début du XXe siècle. Donc je dirais que c'est un... Le terme est un peu galvaudé, mais c'est un dispositif expérimental pour proposer des solutions qui vont ensuite migrer vers l'habitation. Des thèmes comme celui des terrasses accessibles, comme celui des grandes façades vitrées, comme celui des édifices autonomes implantés dans la nature, c'est très très proche de ce que Le Corbusier propose dans le domaine de l'habitation, pour ne parler que de lui, et qu'il ne réalisera qu'après 45.
Et 1933, c'est la date à laquelle Clairvivre est achevé, et c'est aussi la date où est signée la charte d'Athènes, qui signe la naissance de la ville fonctionnelle.
Tant Clairvivre que la charte d'Athènes doivent être situées dans un champ plus vaste, qui est celui du discours hygiéniste, qui est une sorte de matrice très large de l'architecture moderne, et qui aboutit à des programmes directement sanitaires, à des programmes d'habitation dans lesquels la préoccupation de l'orientation, de l'ensoleillement, de l'aération, de l'éclairement est première. Toutes ces démarches ayant comme objectif de remplacer les villes denses, les villes closes du passé, considérées comme pathogènes, par des villes ouvertes.
Mevena Mahé.
Donc on trouvait au centre de la cité tous les bâtiments, on va dire, communs. Donc le grand hôtel, les magasins généraux, le bâtiment administratif, un petit peu en hauteur l'hôpital, hein, un petit peu écarté pour des raisons sanitaires. De part et d'autre, on trouve tous les pavillons d'habitation. Le tout est agrémenté de différents parcs, différents espaces paysagers, puisque c'était aussi une volonté d'Albert Delsuc, le créateur, de faire vraiment une ville à la campagne.
Tout était en locatif ?
Tout était en locatif, tout est toujours en locatif d'ailleurs.
On va aller faire un tour à l'intérieur.
Ouais. Faudrait que je parle.
Nous sommes entrés dans le hall de l'hôtel.
L'architecte qui a été choisi pour Clairvivre, c'est Pierre Forestier, qui est un jeune architecte à l'époque, puisqu'il a 28 ans. Pierre Forestier a été formé auprès d'Auguste Perret, qui est considéré comme le maître du béton armé. Donc c'est vraiment ce qu'on va retrouver ici à Clairvivre. Ça fait vraiment un contraste avec les villages alentours, hein, qui sont encore en architecture traditionnelle, en bois, en pierre, couverture en tuiles ou en ardoise éventuellement. Là, on est vraiment sur des volumes carrés, sur des toits plats, des formes effectivement très sombres, très géométriques. Et ça, c'est vraiment dans l'air du temps, dans l'architecture moderne.
Quelle doit être, à votre avis, une maison moderne ?
Auguste Perret, 1945.
Monsieur, les conditions qui régissent une maison moderne sont les mêmes que celles de tous les temps. Il n'y a que les matériaux qui varient. Et je pense que la matière qui nous permettra de résoudre au plus vite et le mieux ce problème, c'est le béton. Le béton qui est un procédé de construction qui remonte à la plus haute antiquité et qui est à la fois le plus moderne.
Mais est-ce que le béton, on peut le fabriquer facilement en France en ce moment ?
Le béton dépend, comme beaucoup de choses, du charbon. Pour avoir du ciment, il faut du charbon. Pour avoir de la chaux, il faut du charbon. Pour avoir du gravillon, il faut aussi du charbon, même pour le transport. Mais je crois cependant que c'est celui que nous aurons tout de même le plus facilement.
Mais est-ce que le béton propose une architecture nouvelle ?
Bien sûr, le béton propose une charpente. Ça n'est pas nouveau, la charpente. De tous les temps, les hommes ont recherché la charpente pour faire de l'architecture. Le temple égyptien, c'est une charpente. Le temple grec, c'est une charpente. L'église gothique, c'est une charpente. Nous avons aujourd'hui, heureusement, une magnifique charpente qui est celle du béton armé. Il s'agit de la montrer, d'en faire de la beauté
qui paye toujours. Et la beauté même dans la maison d'habitation simple, en fait.
Si l'architecture s'introduit dans une maison simple, elle en fait un palais.
Pierre Forestier est un architecte dont la carrière a été assez longue. Il est né en 1902, il est mort en 1989. Il a été associé à plusieurs des foyers d'invention architecturale, et notamment à tout le travail d'Auguste Perret, puisqu'il a été un des tout premiers élèves de l'atelier alternatif que Perret a créé à l'École des Beaux-Arts en 1924. Très jeune, il a été à Alger, où il a travaillé pour Perret, qui construisait à l'époque le gigantesque palais du gouvernement général, un bâtiment qui domine la ville d'Alger, qui est une grande barre en béton armé, extrêmement avancée pour l'époque, plus avancée que tout autre bâtiment gouvernemental français. Forestier a été présent sur ce projet, puis il a participé à d'autres recherches de Perret. Et donc, quand on regarde le grand bâtiment, le bâtiment principal de Clairvivre, il est fait par quelqu'un qui est tout jeune, mais qui a déjà une expérience professionnelle exceptionnelle. Très peu d'architectes de sa génération ont effectivement construit des édifices utilisant des techniques radicales et des formes qui ne le sont pas moins. Clairvivre, c'est la rencontre entre Forestier, donc sa rencontre avec les promoteurs d'un programme nouveau par ses ambitions, par son implantation dans la campagne, par l'idée d'en faire à la fois un lieu monumental et puis un lieu agréable à vivre. Donc Forestier a la chance ou le talent de se trouver dans ces conditions.
Les pavillons ont un plan donc rationnel, puisque les espaces pour le malade sont orientés plein sud. Là, ils ont toujours des chambres exposées plein sud avec des balcons. Il y avait une autre chambre dans les pavillons qui était destinée au mari, à la femme du malade. Ils avaient une salle de bain commune. Là encore, c'était pour montrer que la mixité était possible, en respectant des règles d'hygiène.
1947, hommage à Henri Sellier.
C'est à 27 ans, en 1910, qu'Henri Sellier entre dans la vie politique. En 1919, il est élu conseiller municipal et maire de Suresnes. Henri Sellier agit en même temps dans le domaine de l'action sanitaire et médico-sociale. Bien avant cette année 1936, où devenu ministre de la Santé publique, il tracera le vaste programme des réformes restant à réaliser et où il conjurera les Français de faire en sorte qu'il y ait en ce pays plus de berceaux et moins de cercueils. Écoutons le docteur Hazeman, ancien chef de cabinet d'Henri Sellier et son fidèle collaborateur, nous parler de cette partie capitale de l'œuvre de son maître.
En 1915, l'agglomération parisienne est, comme d'ailleurs la France presque tout entière, à peu près désarmée contre les fléaux sociaux, contre les ravages de la tuberculose en particulier. C'est alors qu'Henri Sellier fait créer par le Conseil général de la Seine l'Office public départemental d'hygiène sociale de la Seine, qui désormais protégera la famille et la collectivité contre la contagion, tout en aidant et en soignant le malade. Un réseau de 60 dispensaires, des sanatoriums hautement appréciés, des spécialistes de tous les pays vont peu à peu étendre et compléter l'action de l'Office.
Et les hygiénistes, effectivement, c'est peut-être un caractère un peu, je ne sais pas si on peut dire de gauche, mais ça avait un caractère social dans le grand sens du terme.
Christian Boisson.
La destruction des taudis, l'ouverture des routes, tout ce qui concernait le nettoyage des rues, faire disparaître tous ces points malsains. Et ici, précisément, on est sur une hauteur, donc tous les miasmes qui pourraient effectivement arriver du marécage, eh bien, tout cela est évité. Et tout ce qui est réalisation ici, l'eau par exemple, vient d'une quinzaine de kilomètres d'une rivière qui s'appelle l'Auvézère. Eh bien, il a fallu, et c'est Forestier qui a tout réalisé, il fallait monter donc de l'eau propre. Pas question d'utiliser l'eau du marécage. Donc c'était de l'eau potable, parfaitement potable, qui était utilisée. Donc c'est toutes ces règles d'hygiène qui sont des règles qui sont la plupart du temps de bon sens, mais pour lesquelles il fallait des programmes de réalisation qui soient mis au point. La meilleure façon de lutter contre la tuberculose, c'était surtout les précautions à prendre. Donc les linges, les vêtements, tout cela était effectivement récupéré soigneusement. Et il y avait vous l'avez peut-être visité, ce qu'ils appelaient la buanderie, qui faisait plusieurs étages, et les vêtements, tout cela arrivait. Monter au dernier étage, ça passait dans un système de nettoyage de lessive et puis tout, descendait d'un étage à chaque fois et c'était séché, repassé et remis à la disposition. Donc les draps, les vêtements, tout ce qui habillait les malades, il était impératif de les traiter pour les désinfecter.
Penché sur la misère des travailleurs de la capitale, de ses faubourgs et de sa populeuse banlieue, Henri Sellier avait vite compris combien l'action des sociétés philanthropiques, si louable fut-elle, était insuffisante pour arracher les familles ouvrières aux taudis, surpeuplées et insalubres.
Paul Grunebaum-Ballin, 1947.
Avec le concours d'une pléiade d'excellents architectes recrutés et formés par lui, ayant appris dans les voyages où il les a chaque année entraînés à connaître les réalisations urbaniste de l'Autriche, de l'Allemagne et surtout de la Hollande, Henri Sellier bâtit des cités-jardins, édifie ce qu'on a si joliment appelé un jour des usines à bonheur. En 20 ans, 16 000 logements, abritant 65 000 personnes, sont mis à la disposition des travailleurs. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 7 000 projets de logements neufs sont déjà étudiés. Quel mot pourrait décrire ces merveilles architecturales entourant la capitale comme d'une couronne qu'admirent les urbanistes du monde entier. Suresnes, Stains, le Pré-Saint-Gervais, Champigny-sur-Marne, Maison-Alfort, Plessis-Robinson et enfin Châtenay-Malabry, l'admirable ville rose étalée sur la verdure des coteaux et des vallons.
Jean-Louis Cohen.
La cité jardin est un des grands idéaux du début du XXe siècle. Le thème se trouve et formulé pour la première fois en 1898. Dans un pamphlet d'un réformateur anglais du nom d'Ebenezer Howard. Il s'agit de remplacer les grandes villes continues, pathogènes, qui sont les lieux de la lutte des classes, par des organismes décentralisés dans lesquels la ville centrale aurait une population limitée et la population serait distribuée, le reste de la population, dans des villes autonomes, des cités-jardins à faible densité, dont Ebenezer Howard définit d'ailleurs très précisément, comme tous les utopistes, la population. 32 000 habitants, pas un de plus. Donc il y a un discours de la cité-jardin, qui est un discours de classe aussi. L'idée est que la grande ville est corruptrice. Elle tend vers la maladie, vers l'alcoolisme, vers le vice, vers la révolution, vers toutes sortes de choses horribles. Et l'habitation pavillonnaire salubre et la cultivation du jardin, elle a des vertus régénératrices. Donc il est intéressant de voir à Claire Vivre, encore une fois au travers de Hazeman Lee à Sellier, la pratique française de la cité-jardin rencontrer le programme hygiéniste.
Donc ces pavillons, ce sont des pavillons qui sont pour des familles de 3 à 4, mais surtout, ce qui était très important, c'est que tout le confort était à l'intérieur. En 1933, il y avait chauffage électrique, il y avait eau chaude, il y avait téléphone, il y avait l'eau courante et il y avait l'électricité puisqu'il y avait un groupe qui fournissait l'électricité. À côté, les paysans s'allumaient ou s'éclairaient encore avec des lampes à pétrole. Donc c'était un lieu qui était absolument presque futuriste.
Comment les enfants vivaient à Clairvivre ?
Alors, les témoignages que j'ai pu avoir, les enfants... Évidemment, on pouvait craindre pour eux, dans la mesure où on leur disait « Oh là là, il ne faut pas les fréquenter », donc parce qu'ils pouvaient effectivement transmettre la tuberculose. Donc certains souffraient d'un certain isolement. Mais en même temps, vous avez des photos ici sur la table, c'était des enfants qui participaient à toutes sortes de sorties. Il y avait des écoles sur place, mais ils partaient, là, vous voyez, ils partaient à la montagne, ils sont partis au Maroc, ils partaient en voyage. Tous les ans, il y avait un Noël, et c'était la cité de Clairvivre qui payait les jouets. Il y avait des Noëls extraordinaires, extraordinaires. Donc, ils sont passés après d'enfants un peu reclus à des enfants privilégiés. D'autant qu'ils vivaient dans des conditions, je vous le dis, de vie matérielle remarquable.
Madeleine Porchat, vous êtes la doyenne de Clairvivre ?
Oui, je suis ici depuis 1934. Je suis née le 1er mai 24.
Vous aviez 10 ans en 34.
Oui.
Ah oui. Et pourquoi vous vous êtes installée ici ?
Pour mon père, parce qu'à ce moment-là, c'était la guerre de 14, blessé de la guerre de 14.
Il avait la tuberculose ?
Oh oui, on est arrivé en mars 34, et puis il est mort en décembre 34. Je pensais ces jours-ci, là, parce que c'était l'anniversaire de sa mort, le 9 décembre.
Et vous vous êtes installé dans le pavillon où on est aujourd'hui, là?
Ah non. Parce qu'on avait un, on était six, hein, six gosses, attention. C'est mon père qui avait la priorité avec les enfants. Alors on avait un pavillon là-bas parce qu'il était plus grand.
Comment est-ce que c'était de vivre à Clairvivre?
Ben, vous savez, à 10 ans, quand on est gosse, hein, à 10 ans, et qu'on a tout de nouveau, qu'on a toutes les machines qu'il faut, toute l'électricité, tout, ben, vous savez, en 34, c'est pas beau. Il y en a qui sont venus là, mais qui m'ont dit, vous savez, nous-mêmes en ville, on n'avait pas ça, hein. On avait la cuisinière électrique, les radiateurs électriques, on avait le chauffe-eau, on avait tout ça, on avait en 34. C'est pas de la salle de bain et tout, c'est pas de maintenant, c'est tout le temps qu'on l'a vu, nous. Tout le temps, ça.
Et vous viviez donc dans le même pavillon que votre père qui était malade?
Ah ben oui.
Et comment il était soigné? Il allait de temps en temps à l'hôpital, j'imagine?
Mais non. Mais l'hôpital n'était même pas ouvert encore, non. On est arrivé à Clairvivre, mais il y avait des choses qui ne marchaient pas encore. Il n'y avait pas encore, tout ça. La pénicilline sur le fourmi, vous savez, hein. Et puis, il n'y en avait pas beaucoup. Encore. La pénicilline est venue en 46, quand je ne sais plus exactement, c'était là-haut.
Alors ensuite, quand votre père est décédé, vous avez décidé de rester avec votre mère?
Elle a été embauchée ici par M. Destuc.
Qu'est-ce qu'elle faisait?
Ah ben, la femme de ménage à l'hôpital. Comme ça. Ah, voilà. Mon frangin est là-dessus. Oh là là,
alors, qu'est-ce que c'est, ça?
Ça, c'est que tous les ans, les gosses qui passaient leur certificat d'études, la cité leur payait un voyage. Et celui-là, je crois qu'il partait en Suisse. Je ne sais pas où que était celui-là. Oh, je vois même pas que...
En Suisse.
Non, vraiment, on était gâtés.
Jacqueline Desthomas.
Cette ville était attirante parce qu'il y avait en particulier des fêtes formidables au restaurant du lac, hein, des soirées dansantes. Alors le cinéma, ils venaient afficher les programmes de cinéma à Excideuil qui en bavait parce que ne jouissait pas de ses avantages culturels, du moins à cette époque-là, dans les années 30, entre 30 et 40. Clairvivre aime le standing. Les gens qui servent au grand hôtel portent des nœuds papillons. On aime l'élégance, le raffinement.
Même dans les grands magasins, d'ailleurs.
Même dans les grands magasins. C'est du jamais vu. Ici, on est dans un monde rural à cette époque. Les magasins généraux, c'était... Quand on a fait le livre, on avait rencontré des gens qui avaient vécu à Clairvivre et qui les comparaient à une Samaritaine aux Galeries Lafayette. On y trouvait absolument tout, même des produits considérés comme luxueux, la TSF, les manteaux de fourrure, etc., etc.
Nous sommes en face du grand hôtel, de l'ancien grand hôtel et des magasins généraux juste à côté.
Il faut savoir que Clairvivre avait pour vocation de vivre en autosuffisance. On devait pouvoir tout trouver ici. Mais on ne devait pas être s'enfermer à Clairvivre. L'intérêt, c'était de pouvoir faire venir aussi des gens de l'extérieur. Donc le Grand Hôtel devait pouvoir accueillir des gens de passage. Donc en fait, ce bâtiment est constitué de deux corps de bâtiments. Le premier, qui est à l'avant, accueillait au rez-de-chaussée les espaces, on va dire, communs. Il y avait un restaurant, il y avait un cinéma aussi. Il y avait au-dessus les chambres d'hôtel, proprement dites. Et le bâtiment qui est en arrière, lui, c'était pour accueillir les malades qui étaient célibataires ou en attente d'attribution de pavillon. Et on trouvait également les chambres des employés. Et les magasins, donc, il n'y avait qu'un seul endroit où on pouvait faire des achats à Clairvivre. Chaque malade qui vivait ici, qui travaillait dans la zone industrielle, devait utiliser une partie de leur salaire minimum dans ces magasins. Et le principe, c'était que les bénéfices des magasins devaient servir ensuite à financer les travaux dans la cité et à payer les employés. Il y avait vraiment au départ, dans la théorie, une idée de circulation des fonds comme ça. Le projet d'Elsuc et de Hazeman, en créant Clairvivre, c'était que ça devait servir d'assise pour une expérience sociale plus large, puisqu'ils voulaient que Clairvivre soit la première de nombreuses cités de ce genre. C'était un peu une sorte de laboratoire. Le fait est qu'il n'y en a pas eu d'autres.
Le mouvement dont il s'inspire le plus, c'est le mouvement qui a été créé au 19e par Charles Fourier, les fameuses phalanstères. Ces communautés vivaient ensemble, produisaient ensemble, enfin, voulait démontrer que le but du travail n'était pas de s'enrichir, mais de partager. Alors, lui...
Delsuc
et les autres. Il disait que non, hein, pas de fouriérisme chez eux, mais en fait, c'est faux, il y en avait.
Quels éléments, précisément?
L'autarcie. Clairvivre voulait tout produire et contrôler tout ce qui était commercial. La centrale thermique fournissait l'électricité, elle la revendait aux locataires des maisons, mais elle la revendait aussi à l'extérieur. L'eau courante, l'eau potable. Il y avait un château d'eau à Cornu au-dessus de Génisse, et c'est pareil, cette eau potable, il l'a redistribuée. Tout ce qu'on produisait, la zone artisanale était très très importante. L'imprimerie, les abattoirs, le garage avec une partie carrosserie et tout ce qui était agricole. On revend et en revendant, eh bien on peut réinvestir et payer les salaires.
Donc là on est à la ferme de la Roque, donc qui est une ferme préexistante hein, à la cité, en pierre et une couverture en tuiles. Et donc cette ferme devait apporter l'alimentation, on va dire, à Clairvivre, hein, puisqu'elle produisait les œufs et de la volaille notamment.
Afin que la cité soit autosuffisante.
Soit voilà, autonome, ouais. Voilà, le cochon cunoir, c'est une race limousine qui a été récompensée. Et donc aujourd'hui, il y a une section qui est en charge de cet élevage.
Bonjour monsieur. Vous êtes donc responsable de l'ensemble des activités de la ferme?
Non, pas de l'ensemble des activités de la ferme, non, simplement la partie maraîchage.
D'accord.
Donc là où on est.
Qu'est-ce qu'on cultive ici alors?
Alors ici on fait des légumes sous abri. Actuellement on a des salades, des épinards, des fèves. Et après on travaille à l'extérieur où là on fait tout ce qui est potiron, différentes sortes de courges, courgettes, etc.
Et ce que vous récoltez ensuite est vendu ici à Clairvivre ou à l'extérieur?
Alors, on fournit en partie les deux cuisines.
Et c'est-à-dire le restaurant d'entreprise?
Le restaurant d'entreprise, la résidence et le restaurant
de l'hôtel.
Voilà.
Ce qui est très important ici, c'est surtout l'aspect réinsertion professionnelle. Vous aviez, elle existe toujours, une imprimerie. Elle aurait pu accueillir jusqu'à 200 personnes, mais il y a à peu près 100 personnes qui y travaillaient. Il y avait une serrurerie, il y avait une menuiserie, mais ils travaillaient en fonction de leur capacité physique. Quand il vous reste un demi-poumon ou un poumon, vous n'avez pas évidemment la résistance d'un ouvrier habituel. Donc ils travaillaient en fonction de leurs aptitudes, de leurs capacités. Et quand ils étaient fatigués, ben ils arrêtaient. Et tout ce travail, tous ces métiers qui ont pu être appris, eh bien, ce sont des gens qui, après, sont partis dans le civil, si j'ose dire, et puis qui sont devenus eux-mêmes des professionnels de l'imprimerie ou de la menuiserie. Vous voyez, la réinsertion sociale, c'était déjà l'idée qui, effectivement, sous-tendait la vie ici. C'est pour ça que c'était pas des malades grièvement atteints, mais c'était très souvent des gens qui étaient plutôt sur une phase ou de convalescence ou d'amélioration nette de l'état. Alors évidemment, il y avait des choses, vous verrez peut-être, c'est très amusant, c'est de voir des photos où vous avez, à ces époques, la cigarette, c'était quelque chose de très important. Donc vous avez des hommes qui n'ont plus que la moitié d'un poumon et qui sont tranquillement en train de tirer sur leur bouffarde ou sur leur clope.
Sanatorium de Bligny, 1945.
Est-ce que je peux vous demander, docteur, de me parler très rapidement de cette cure d'entraînement?
Sûrement.
Et quelle est son utilité, s'il vous plaît?
Son utilité est la suivante. Les pensionnaires, après avoir fait une cure normale, sont mis pendant 2 mois à la cure d'entraînement qui consiste à voir quels sont leurs facilitaires à travailler de nouveau. Nous les pesons à ce moment-là toutes les semaines. Nous voyons plus souvent les analyses de crachat. Nous procédons également à la surveillance radioscopique plus fréquemment que dans le courant de la cure afin de s'assurer qu'il n'y a pas de rechute avec l'effort nouveau qu'ils ont à faire. S'il y a un incident au cours des premières semaines de la mise à l'entraînement, nous les remettons dans le groupe des malades et nous recommençons à les mettre à l'entraînement un peu plus tard. Le plus souvent, progressivement des heures de travail, en gardant la cure silencieuse de l'après-midi. Et quand ils ont tenu comme cela pendant 2 mois, avec un maximum de 5 heures par jour, ils sont à même de sortir, de reprendre l'occupation antérieure s'ils n'ont pas cherché à trouver un autre métier.
Jean-Louis Bardet, vous avez travaillé pendant de nombreuses années à Clairvivre.
Oui.
Vous êtes maintenant à la retraite.
Je suis arrivé donc en tant que pensionnaire, puisque j'étais tuberculeux à l'époque, en 1953. C'est mon docteur traitant qui un jour m'a dit, d'abord, il m'avait envoyé à l'hôpital de Montreux, où je suis resté 3 mois. On risquait d'être bacillaire à l'époque, vous savez ce que ça veut dire. En parlant devant une personne ou n'importe quoi, vous balanciez des microbes, et la personne pouvait capter elle aussi la tuberculose. Et comme je n'avais plus de bacille, on m'a dit, maintenant tu vas filer en sanatorium.
Et vous avez vu une différence importante entre l'hôpital donc, où vous étiez avant
et
ici, ça a été...
Là, c'était la liberté. Hein. Rien que déjà l'accueil, c'était formidable. C'était presque une vie familiale, même avec les infirmières, avec les infirmiers, les toubibs. Donc j'ai été sous traitement avec PAS, strep, pour tout le bazar, si je vous raconte tout ça, je ne sais pas. Mais comme j'avais une tâche qui risquait un peu peut-être de s'ouvrir, on m'a fait un pneumothorax. Ce pneumothorax, donc, c'est une insufflation d'air entre le poumon et la plèvre. Et je l'ai donc gardé pendant 3 ans. Mais durant tout ce temps, comme tous les autres, parce qu'il n'y a pas que moi, je vous parle pour tous, nous étions réadaptés. C'est-à-dire qu'on nous donnait un petit boulot qui était dans la cité où on pouvait le faire. Donc j'ai commencé comme secrétaire d'une toubib, le docteur Lacoste. Ensuite, je suis descendu au standard, vague-mestre. Qu'est-ce que je faisais ? Et opérateur projectionniste. Parce que quand je suis arrivé ici, j'étais opérateur projectionniste.
Donc le cinéma était installé à Clairvivre depuis le début ?
C'était une cabine impeccable. C'était encore les premières lanternes avec les charbons dedans. Hein. Ça n'était pas comme maintenant, vous avez des trucs électroniques avec une super lampe puissante. Là.
À quel moment vous avez décidé de rester travailler à Clairvivre et pourquoi ? Après votre réinsertion, je veux dire.
Parce que je n'avais plus aucune idée de partir à l'extérieur, de redescendre en Seine-et-Marne. Pour moi, Clairvivre me plaisait, j'étais bien, il y avait beaucoup d'amis. On n'était jamais seul. C'était l'ambiance, ça fait beaucoup de monde hein, quand vous étiez dans le réfectoire où tout est plein. Hein, il y a toujours d'ailleurs, je pense, une grande salle de jeu. Donc c'était au 7e étage, en haut, il y avait ping-pong, billard, baby, tout. On pouvait y aller à tout moment, quand on avait fait son traitement.
Alors, c'est vrai qu'il y avait une absence de liberté, même si on vivait excessivement bien à l'intérieur de la cité, tout était fait pour le bonheur des habitants. Le souci, c'est que tous ces gens qui avaient tout ce qu'il fallait sur place n'ont eu qu'une envie, c'est aller voir ailleurs. Et je crois que c'est humain. Par exemple, Delsuc s'est terriblement battu pour éviter d'avoir des cafés, des lieux susceptibles d'attirer des gens déjà fatigués qui n'avaient pas besoin de boire. Et puis on considérait que le cinéma, le théâtre, puisqu'il y avait du théâtre, il était, je vais dire naïvement, persuadé qu'ils avaient tout ce qu'il leur fallait sur place.
Alors, quelque chose que je vais signaler aussi, c'est que M. Delsuc avait interdit à tout commerçant extérieur à Clairvivre de traverser Clairvivre. Le boulanger n'avait pas le droit d'aller y vendre son pain.
Et qui c'est qui le vendait à Clairvivre ? Au début, il faisait le pain à
Clairvivre ? Ils l'ont fait dès le départ, oui.
Dès le départ, tu crois ?
Ne traversait pas Clairvivre. Et c'est pourtant la route départementale.
Et on ne faisait pas de commerce en dehors de magasins généraux en dehors de Clairvivre.
Pas parce qu'ils voulaient que ça citait marche et que ce qu'ils faisaient chez eux soit vendu, quoi.
Les clients de Géraud avaient continué à se faire servir par Géraud dans les baraques des environs, parce qu'il y a eu la construction des baraques autour de Clairvivre.
Oui, il faut parler des baraques, parce que ça, c'était très intéressant.
C'est très intéressant.
Qu'est-ce que c'est, les baraques ?
Quand vous allez à Clairvivre, il en reste une ou deux encore, une enfouie sur les ronces à gauche, et puis chez Ampiné, qui était en dur, un peu plus loin, juste là, vous connaissez peut-être à l'entrée, là.
Sur la route de Sagnac.
Sur la route de Sagnac. Et puis il y avait la baraque en haut.
Alors celle-là a tenu le coup.
La baraque avec un grand B, tout à fait en haut, au carrefour des routes. À côté de la route, il va chez...
Je dis tourner de Clairvivre.
Et qu'est-ce que c'était alors, cette baraque ?
Eh bien, puis des cafés, des trucs, où les gens...
Épicerie,
on y dansait, même.
On y dansait.
J'y suis allée 2 fois dans ça. Et puis le temps a passé, et puis bon, Il y a eu Clairville, il y a eu les écoles, il y a eu le cinéma, il y a eu le théâtre de temps en temps. Ça a permis aux gens, parce que ça fait une ouverture vers l'extérieur, à notre village, où quand même on était bien, on était à la limite de la Corrèze. Hein, et deux départements, ça fait une frontière. Hein.
Qu'est-ce que Clairvivre vous a apporté, en fait ?
Un car pour aller au lycée. Des clients pour, pour ma mère. Des amis, parce que moi j'étais bien avec certains jeunes de Clairvivre. La mère de la mère d'Alain Maigret, là, qui était exactement de mon âge, le maire de Clairvivre, bon, on se connaissait bien, etc. Moi, je trouve que ça a un aspect positif. D'abord, parce qu'il y a eu Clairvivre, on a pu recueillir tous les hôpitaux de... On a recueilli tout Strasbourg. On a d'abord eu le républicain espagnol. Il y avait de beaux garçons qui descendaient à Salagnac, de beaux espagnols, bien bruns, bien beaux, juste avant la guerre. Après, tous ces maquis que Fontaine camouflait et que les Allemands n'ont jamais mis les pieds dans Clairvivre. C'est qu'ils en ont sauvé à l'hôpital.
Ah oui, hein,
et il y en avait des maquillés, des maquisards blessés. Mais puis ça fait, je répète, une ouverture vers l'extérieur. S'il n'y avait pas eu Clairvivre, ça n'aurait pas eu lieu.
Qui, en fait, dirigeait la cité ?
Ah ben, c'était Delsuc.
C'était le seul chef.
Omnipotent. C'était lui, c'était sa chose. Et c'est un homme... de très bon sens, mais un caractère très fort. Comme on sait souvent, les caractères forts ne sont pas toujours faciles à vivre. Il n'y avait pas de collège de direction. Bien sûr, il y avait des collaborateurs. Bien sûr, il y avait des personnes comme Forestier, dans des aspects comme ça de... Mais le fonctionnement, voilà. Il n'y avait pas un directeur des opérations. C'est, lui, il voyait tout. Il faisait tout. Il était toujours là. C'était en quelque sorte, il a toujours vécu ici. C'est un homme, un organisateur né. C'est un prodigieux.
Donc là, le journal, c'est Vivre, hein, votre...
Oui, oui, c'est le titre. Oui, oui. Là, celui-là, il est du 20 mars 62. C'est le décès de d'Albert Delsuc.
Oui. Ah oui.
Voilà. Un tribun, un lutteur, un bâtisseur, un précurseur, un chef.
Vous l'avez connu ?
Moi, je l'ai connu, oui. C'était un homme dynamique, hein, soi-disant qu'il avait mauvais caractère, mais enfin on ne peut pas dire... Les gens qui ont du caractère, ils ont toujours mauvais caractère, en fait. Delsuc, c'était réellement un entraîneur, un meneur d'hommes. Delsuc, vous le suiviez. Lorsque Delsuc avait parlé au Congrès, il n'y avait personne qui ouvrait la bouche. Il valait mieux pas, d'ailleurs, le contredire, parce que ça devenait virulent.
Il y a eu quand même quelques oppositions au départ.
Oui, mais les oppositions, je vais dire qu'elles sont avant tout politiques. Parce que c'est un homme de gauche, tout le monde le sait. Il adhérera plus tard à la SFIO. Hein. Il faut quand même savoir que Clairvivre a reçu la visite de Léon Trotsky dans les années 30. Parce que Clairvivre est une vitrine. Même si tout n'a pas marché, c'est une vitrine. On y accueille des journalistes, on y accueille des députés, on y a accueilli des ministres. Hein. Mais cette marque à gauche... Elle existe pour les créateurs depuis les années 20. Hein. Ils ont toujours été à gauche.
Et cette fibre sociale, justement, Clairvivre a toujours cette fibre sociale ?
Actuellement. Mais moi, je pense que oui, parce que qu'est-ce qu'ils font actuellement ? Ben, ils aident des gens qui, c'est pareil, qui sont sur le bord du chemin, hein, qui n'auraient pas d'avenir si on ne les aidait pas à trouver du travail, à se recycler et à se réinsérer dans une société qui bien souvent les a rejetés. C'était le cas pour les tuberculeux, mais c'est aussi le cas pour les handicapés. On est tout à fait dans la lignée des créateurs. On est encore dans la solidarité, dans la philanthropie et dans le partage.
Mais les victimes de la Grande Guerre veulent plus encore. Encouragés et conseillés par les princes de la science, ils veulent surtout donner au monde l'exemple réconfortant d'une œuvre de solidarité profondément humaine et d'un progrès de la civilisation. Ils veulent que leur expérience profite à toutes les victimes du combat quotidien contre la tuberculose et pour elles, ils lègueront au pays la cité de leur rêve qui reviendra à l'État en 1950.
I've got the dust,
Mais pourquoi ont-ils voulu ?
Ils ont voulu pacifier la commune de Salagnac.
Mais ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Ils ont été élus.
C'est le
confort était quand même. Ils ont installé une mairie à Clairvivre, qui est autre chose.
Le confort
n'a
jamais joué dans ma tête. Vous vous rendez compte des frais qui ont été engagés pour construire Clairvivre, là ?
Et alors ?
leur construire à grands frais une cité aussi.
Mais pourquoi pas?
Manche.
Moi aussi, moche, aussi moche. C'était un truc de l'époque, c'était moderne. Moi, je trouve très bien ces pavillons. Ça fait un peu Afrique maintenant, ça fait plaisir quand on le voit de loin. Je dis, tiens, je voyage comme ça.
Vous trouvez pas que ça dénature le paysage?
Bon, mais que je veux que ça dénature. Il y avait 5 ou 6 malheureuses fermes à Salagnac, elle et les autres, et puis c'est tout.
Mais c'était pas des fermes malheureuses, nous y
mais,
vivions.
Mais je t'ai pas dit qu'on était malheureuses. Je dis malheureuses fermes par rapport...
Nous y vivions tranquilles.
Oui, oui, tranquille, ça c'est sûr qu'on vivait tranquille.
Et quand on va s'installer chez les autres, on essaie d'être discret.
Oh, chez les autres, mais c'était pas
dominant.
Oh, bon Dieu, la forêt et le reste. Écoute, quand ils sont arrivés en 30, 32, rappelle-toi nos campagnes. Hein?
Mais nos campagnes, c'était le bonheur. On était libre. Libre.
Mais tu, après, tu n'as plus été libre, toi? Moi, je suis un génie, je suis toujours libre, là.
Merci à Germain Laurent, Ginette Géraud, Mévéna Mahé, Christian Boisson, Robert Talbot, Jacqueline Desthomas, Jean-Louis Cohen, Madeleine Porchat, Jean-Louis Bardet, et Thierry Dupasquier. Merci aussi à Jean-Bernard Gauthier, Laurent Delfour, Bruno Deveau, François Grand, Martine Marquet, Anne Boissira, Jean-François Amadou et à tous les résidents de Clairvivre. Documentation INA, Amélie Briand-Lejeune et Aurélie Marsay. Prise de son, Jean-Pierre Janvier. Mixage, Valérie Lavalard. Au bonheur des clairs vivants, un documentaire de Sarah Masson et Anne Fleury.
Voilà pour ce documentaire dans le cadre de notre semaine consacrée à la santé publique. Demain, nous la poursuivons cette semaine en nous intéressant à la question de la santé publique et de la colonisation. Et vous le savez sûrement, la semaine prochaine, la Fabrique de l'Histoire et toute l'équipe vous invitent le samedi 12 mars pendant toute la journée à la Sorbonne pour la journée de débat « L'année vue par l'Histoire ». Vous avez été quelques-uns et quelques-unes à nous demander où et comment vous inscrire sur le nouveau site de France Culture. Une seule réponse, téléphonez au 01 56 40 37 53, 01 56 40 37 53. On vous expliquera comment vous inscrire pour cette journée, donc ouverte à tous et à toutes, au cœur de la Sorbonne, autour de l'année vue par l'Histoire, avec toutes les équipes de la Fabrique de l'Histoire, mais également de la revue L'Histoire et du journal La Croix. The wind blows mighty strong. If you wanna get a mama, just sing a California song.